Vous êtes sur RTL.
Mandez-nous demain.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux recevait donc la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Jacqueline Gourault.
Merci beaucoup d'être sur RTL ce matin. Bonjour Jacqueline Gourault.
Bonjour.
Vous étiez à l'Assemblée hier, vous avez écouté, entendu même, j'imagine, Christian Jacob, le patron des députés LR, qui s'est livré un réquisitoire en règle contre Emmanuel Macron. Qui, dit-il, a perdu le respect des Français. Ce n'est plus d'un débat dont le pays aurait besoin, mais d'une nouvelle élection. C'est le jeu classique de l'opposition.
Oui, c'est le jeu classique. Mais au-delà de ça, pour quelqu'un qui se réclame héritier d'une famille politique gaulliste, je trouve que ça manque un peu de respect des institutions de la Ve République. On joue pas comme ça, d'une manière un peu, comment dire, à peine respectueuse vis-à-vis du président de la République et du Premier ministre. Il y a des institutions, elles fonctionnent, il y a eu un grand débat, une grande consultation qui a été finalement une grande réussite. Tout le monde s'interrogeait au début. Je crois que, on gagnerait dans la vie politique française à se respecter un peu plus les uns les autres.
Ouais, mais est-ce que quand même Emmanuel Macron ne joue pas un peu avec les nerfs des Français, des élus, en faisant durer ce grand débat? Je disais tout à l'heure, il n'en finit pas d'en finir, ça commence à être un peu long, non? Même pour vous?
Mais non, parce que quand vous dites ça, en fait, le calendrier annoncé est respecté. C'est-à-dire que ça devait se terminer le 15 mars en ce qui concerne les réunions sur le terrain. C'est ce qui a été fait et le président de la République avait dit qu'il s'adresserait mi-avril aux Français. Alors ça peut sembler long, je vous concède cela, mais en réalité, parce qu'il y a une attente, mais il ne faut pas être impatient. L'impatience, c'est quelque chose qui peut se comprendre, si je puis dire, puisque les gens attendent une annonce, mais en réalité, on respecte le calendrier.
Et quand est-ce qu'il va s'exprimer, donc?
Je ne le sais pas précisément.
Ce sera la semaine prochaine.
Je ne connais pas la date exacte, donc je ne peux pas vous le dire.
Mais vous souhaitez que ça aille vite maintenant, vous aussi?
Je pense que le président de la République le sait lui-même.
Ouais. Écoutez, en tout cas, vous lui transmettrez nos attentes. En attendant, il y a une forme d'effervescence. D'ailleurs, il y a un autre front qui s'est ouvert hier au Parlement, avec ces 218 élus de droite et de gauche, qui ont réussi un coup politique quand même, en s'unissant pour réclamer la tenue d'un référendum sur Aéroport de Paris dans le cadre du référendum d'initiative partagée, parlementaire. Donc, pas encore fini, il faut évidemment aussi que le Conseil constitutionnel soit d'accord et 4,5 millions de signatures de Français. Mais quand même, ils ont réussi un coup politique.
D'abord, c'est amusant parce que on a rappelé tout au long du grand débat que cet instrument n'avait jamais été utilisé, qu'il existait dans le cadre, vous savez, du RIC qui était réclamé. Et au fond, je me suis dit, en entendant ça, au moins, le grand débat aura été utile, au moins pour cela, puisque ça a permis aux parlementaires de se saisir de cet instrument, si je puis dire. Alors, ceci dit, c'est quand même assez rigolo. C'est un drôle d'attelage.
Ça vous fait rire.
C'est assez rigolo sur le fond parce que d'abord, moi je me souviens quand Monsieur Villepin avait privatisé les autoroutes.
Vous en souvenez au MoDem.
On s'en Bayrou souvient. Vous rappelez le combat de François Bayrou sur le sujet.
Et votre patron politique.
Les socialistes qui crient très fort et qui eux-mêmes ont privatisé des aéroports il y a peu de temps, Toulouse, Nice, je crois, Lyon peut-être, je sais plus la liste en tête exactement, mais je crois que c'est cela. Tout cela est assez rigolo et que LR fasse un front uni avec LFI. Je dois dire que je ne savais pas que je verrais ça dans ma vie politique.
D'accord, mais c'est vous dites le mariage de la carpe et du lapin, mais le projet de privatisation, il peut être définitivement voté demain, comme si de rien n'était.
Ah bah, Écoutez, la procédure parlementaire continue, bien évidemment, et puis il y aura la procédure parlementaire suite à ces signatures. Il faut que ça soit validé
par le Conseil, constitutionnel,
et puis ensuite, il faut recueillir 10% du corps électoral
vous
français.
Vous êtes totalement convaincu par cette privatisation ? On rappelait que le MoDem, effectivement...
Mais je crois que la situation n'est pas tout à fait la même. Quand les autoroutes ont été privatisées, la situation économique, je vais dire ça comme cela, globalement, était très bonne. C'est-à-dire, derrière, il y avait le cash qui tombait immédiatement. Là, pour Aéroports de Paris, ça n'est pas exactement la même situation. Il y a beaucoup d'investissements à faire pour remettre...
Ils vont être avant la privatisation, de toute façon, 6 milliards d'euros. Avant la privatisation.
Il y aura d'autres investissements à faire. Voilà.
Et vous dites que la puissance publique n'a pas la trésorerie nécessaire pour assurer la modernisation des aéroports. Il vaut mieux le livrer au privé.
Je dis que je suis solidaire de la décision. Je suis solidaire de la décision.
C'est pas très
gouvernement. Pourquoi c'est pas
non,
très
mais utile. C'est une façon de formuler un peu tiède, on va dire.
Ah bah écoutez, je ne sais pas, je peux le dire autrement, mais en tout cas, je suis solidaire du gouvernement pour bien sûr cette décision.
Jacqueline Gourault, vous avez été sénatrice. La fronde est venue du Sénat. Si Emmanuel Macron n'avait pas menacé dans sa lettre aux Français de supprimer le Sénat, est-ce que vous pensez que ce sera arrivé ?
Non, il n'a pas.
C'est pas lui qui a un peu.
D'abord, il n'a pas.
Même,
il n'a pas menacé de supprimer le Sénat.
Il a évoqué l'idée de transformer la Haute Assemblée en posant la question aux Français.
Oui, alors écoutez, c'est une question dont j'entends parler depuis que je suis sénateur. Et notamment ceux, et ça revient dans les discussions, je l'entends, qui pensent que le Sénat pourrait ressembler davantage au Bund Nostrat, c'est-à-dire faire une assemblée des grands élus français, comme c'est en Allemagne, et qui devrait s'occuper en gros des textes territoriaux. C'est quelque chose dont j'entends parler depuis très longtemps, et qui revient sur le
Emmanuel
tapis.
Emmanuel Macron l'a formulé, il a demandé aux Français, est-ce qu'à votre avis, cette chambre haute, ce Sénat, il va sortir intact du grand débat ? Ou est-ce que Emmanuel Macron...
En ce qui me concerne, je suis très attachée au bicamérisme, dans toutes les grandes démocraties, presque toutes. Il y a deux assemblées, et moi je pense que les deux assemblées sont nécessaires pour la bonne démarche démocratique de notre pays.
Bon, donc vous n'êtes pas fanat d'un affaiblissement du Sénat, c'est ce qu'on a compris. Jacqueline Gourault, est-ce qu'il faut un nouveau temps de décentralisation ? On n'a pas très bien compris, parce que vous avez dit, si on sort avec un mécano institutionnel qui joue avec la répartition des pouvoirs entre les collectivités locales et l'État, c'est pas ce qu'attendent les Français. Et Emmanuel Macron, lui, il a dit, il faut un nouveau temps de décentralisation. Qui a raison ?
Vous savez, j'étais avec Emmanuel Macron dans l'avion pour la Corse quand l'article est paru dans Le Monde. Et vous savez que je travaille main dans la main avec le président de la République et avec le Premier ministre. L'article dans Le Monde dont vous faites allusion.
Non, je ne fais pas allusion à ça, je fais allusion à vos déclarations. Elles ont peut-être été synthétisées, c'est ça, dans le journal Le Monde ?
Non, c'est dans Le Monde, c'est à partir du Monde.
Pardon, c'est votre interview
oui,
dans Le Monde.
C'est, c'est à partir du Monde.
Parenthèse fermée.
Voilà, d'accord. Très bien. Ce que je veux dire très précisément, c'est que quand vous alliez dans les réunions, parce que moi j'allais dans les réunions des grands débats, les gens vous ne parlent pas de décentralisation, vous n'utilisent pas le mot décentralisation. Ce dont ils vous parlent, c'est de proximité, de services publics, de démographie médicale, etc. C'est cela qu'ils veulent dire. Le mot décentralisation est un mot utilisé par les élus, par les associations d'élus, et donc, bien entendu, ça peut se traduire par une décentralisation. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que quand on s'adresse aux Français, il ne faut pas faire du mécano institutionnel. Il faut parler de ce qu'ils ressentent, eux, et de leurs priorités et de leurs besoins.
Et en un mot, qu'est-ce que l'État peut encore décentraliser ? En un mot, par exemple ?
C'est à discuter avec les associations d'élus, mais la décentralisation, et si vous permettez, j'en parle suffisamment avec le président de la République, la France est déjà décentralisée. Et le président de la République dit souvent aussi, il faut faire aussi le point sur ce qui a été décentralisé, pour savoir si tout marche bien. Et puis après, il y a des choses qui sont encore dans les mains de l'État, qui éventuellement pourraient être décentralisées. Je ne sais pas, je vais vous dire, les petites lignes de chemin de fer pourraient être décentralisées aux régions, je vous le dis, qui déjà gèrent une partie de cette mission. C'est un exemple.
C'est un bon exemple, puisque les Français sont effectivement attachés au maintien, notamment des ferroviaires. Il nous reste très peu de temps. Une question aussi qui vous intéresse. Christian Jacob, toujours lui, disait « La proportionnelle, ce n'est pas ce dont la France a besoin. » Il faut de la proportionnelle, et à quel niveau, en un mot ?
D'abord, les Français réclament de la proportionnelle. Ouais. Deuxièmement, j'appartiens à une famille politique qui a toujours demander une dose de proportionnelle.
Laquelle ? Laquelle voudriez-vous ?
Quelle dose de proportionnelle ? Peu importe le chiffre, ce qui est important.
Ah bah non.
Mais ce qui est important, c'est que tout le monde soit représenté, que tous les Français se sentent représentés.
On était parti sur 15%. Oui. Vous souhaitez qu'à la fin du grand débat, ce soit plus que 15%?
C'est le minimum, 15%.
Oui. Et le maximum, ça pourrait être...
Parce que ça dépend aussi, je vais vous dire. Ça dépend aussi du nombre de parlementaires. Et là aussi, on était parti à 30% de baisse du nombre de parlementaires. Et si ça change, parce que ça aussi, ça peut bouger, ça change le pourcentage de proportionnel.
Donc, le mécano, là aussi, n'est pas encore totalement stabilisé. Emmanuel Macron réfléchit sans doute, Jacqueline Gourault. Oui,
encore. Je pense que le président de la République et les premiers ministres sont en train d'affiner leurs décisions.
Tout n'est pas arbitré. Merci beaucoup, Jacqueline Gourault, d'avoir été ce matin avec nous sur RTL.
Et l'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr dans un instant.